Ben bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau partage. Aujourd'hui on est chez JP comme d'habitude, on a Princesse Claudia, Prince JP, on a Princesse Nicole, Princesse Bulle, Princesse Marilyn, Princesse Hélène et moi-même pour vous servir. Et puis la famille Chabot vous salue, vos salutations, chaudes salutations. Et puis que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et puis on veut saluer les gens sur Internet, qui nous écoutent sur Internet. On veut saluer les gens sur Radio Prédication. On veut saluer tous nos amis et toutes les autres. On veut pas nommer personne ce soir. Est-ce qu'on nomme quelqu'un ce soir?
Claire.
Claire. Oui. Denise. Réginal.
Michel.
La super ma tante Céline. Pasteur Laurier Raymond, évidemment, qui sont nos yeux. Luc et Doris, oui, qui nous avaient reçus, hein, quand on avait l'air. Ils sont tellement recevants, chaleureux. Luc et Marie. Elle est rouge, comment ça, elle est rouge, non? Et puis, saluer nos petites sœurs, Carmen Hélène. Et puis, Philippe, qui revient au travail la semaine prochaine. Et puis, merci Seigneur. Hein? Et puis, si vous voulez, on va prier, on va remettre ça au Seigneur, et puis on va commencer le partage. Ben, Père, on veut te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être ensemble ce soir, Seigneur, pour étudier ta parole. Merci pour cet enseignement que tu vas nous donner ce soir, Seigneur. Et puis, comme à l'habitude, on veut pas être familier avec la parole de Dieu, on veut s'en servir, on veut la prier. Et puis, Seigneur, on veut te réclamer cette promesse que tu as faite là où deux ou trois seront assemblés. Je serai parmi eux. Et puis, Seigneur, tu n'es pas parmi nous ce soir. Ce rassemblement ne sert à rien. Mais si tu es parmi nous, il nous va nous servir éternellement. Ce qu'on va apprendre ici ce soir, ça va nous servir éternellement. Ça va nous servir dans l'éternité. Et puis, Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer pour ce que tu as fait pour nous à la croix. Pour ce que personne de nous pouvait faire. Le paiement, on pouvait pas le faire, personne, juste toi qui pouvais le faire, Seigneur. On veut te dire merci. On veut te dire que ce grand geste que tu as fait pour nous, on sera jamais familier avec ça, Seigneur, ce que tu as fait à la croix. On veut vraiment te remercier, Seigneur. Et puis, on veut te demander d'ouvrir les yeux de notre cœur aujourd'hui par ton Saint-Esprit d'amour qui vit en nous, Seigneur, qui parle en ton nom. Et que tu puisses souffler sur nous ce soir pour venir nous enseigner ta parole. Et puis que le nom de ton Fils Jésus soit glorifié à travers nos vies. Amen.
Amen.
Et puis, on avait vu un message, le dernier message qui s'appelait « Dispensateur de la vérité ». Est-ce que j'ai appuyé? Oui, j'ai appuyé. J'ai appuyé. Et puis, c'est les lunettes à Claudia.
Ouais.
Ça va bien aller. Et puis, on avait vu un message qui s'appelait « Dispensateur de la vérité ». Dimanche. Et on s'est inspiré de 2 Timothée. Hein? Les paroles de 2 Timothée. On avait vu que la deuxième épître à Timothée, c'était la dernière que Paul a écrite. C'est pas la dernière chronologiquement dans les Écritures, mais c'est la dernière que Paul a écrite. Officiellement. Il était en prison quand il a écrit cette épître-là. Et puis quand il est sorti de prison, c'est pour se faire décapiter. Il avait son temps était venu. Et puis on avait vu dans 2 Timothée que Paul, il nous dit de s'efforcer de se présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est ça le plus important, je pense. Le plus important du message, je pense, c'était ça. C'est de dispenser la parole telle qu'elle est, sans la déformer, sans lui faire dire ce qu'elle dit pas. C'est la parole, c'est la vérité, c'est la vérité. Quand la parole dit quelque chose, on n'a pas besoin d'essayer de trouver 56 solutions pour se justifier dans nos actes. Non, la parole, elle a un statut. Et puis, le Seigneur, il dit, Paul, il dit, étudie-toi à te présenter approuvé dans la version de l'Arbi. Étudie-toi à te présenter approuvé. Un ouvrier qui n'a point à avoir honte. Et puis, exposant justement la parole de la vérité. Et puis, un ouvrier, c'est aussi un professeur, mais un professeur, c'est aussi un étudiant. Un étudiant qui qui est à l'école du maître pour ensuite le redonner. Et puis, on voit dans 2 Timothée 1, verset 14, que Paul dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Et puis, c'est vraiment la seule option qu'on a pour marcher dans la vérité. Pour être sûr qu'on est dans la vérité, c'est que par le Saint-Esprit qui va venir nous approuver ou qui va venir nous indiquer si on est dans l'erreur, à condition qu'on remplisse les conditions pour qu'il puisse nous parler. Hein? On avait déjà vu ça. Et puis, en gros, c'était ça. Les vases d'honneur, on avait la fameuse prédication le thème du vase d'honneur. Dans la maison du maître, il y a plusieurs vases. Hein? Il y a des vases d'argent, il y a des vases d'or, il y a des vases de bois et de terre. Les vases de bois et de terre, c'est des vases charnels. C'est des vases qui... ça pourrait représenter aujourd'hui des gens qui sont charnels puis qui sont pas spirituels, sont plus à l'écoute de leur convoitise charnelle que de la spiritualité, d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et puis il y avait des choses qu'on va revoir aujourd'hui. Fuis les convoitises de la jeunesse, poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur un cœur pur. Puis c'est ça qu'on est ici. Le nombre est pas tellement important. Et puis ceux qui ont pas, on passera pas tellement de temps là-dessus. Paul, il va dans le chapitre 3, il va d'un avertissement que dans les derniers temps, il va y avoir des gens qui vont paraître pieux. Ils vont paraître vraiment, là, ça va des gens, là, ils vont avoir l'apparence de la piété. Sauf qu'ils vont la renier par leur vie même. Par le fait que le style de vie qu'ils ont. Et ça va venir faire mentir les Écritures. C'est ça. Ça sera pas cohérent. Il dit, puis ils vont entraîner des gens qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Ça, c'est les gens qui suivent les cours. Ils sont partout dans toutes les conférences, sont en arrière de ces hommes-là. Et puis, ces hommes ou ces femmes-là. Et puis, leur vie est pas en rapport à l'Église. C'est pour ça qu'il dit Paul, il dit... Ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité parce qu'ils finissent jamais d'apprendre, ils ne mettent jamais en application. Donc, Paul il est clair sur ce pour statuer, il dit « Éloigne-toi de ces gens-là. » Paul nous exhorte à se détourner de ces gens-là. La réponse est au verset 5, 2 Timothée 3, 5. Détourne-toi de tels gens. Je pense que quelqu'un avait pris, moi le Seigneur m'avait mis à cœur que quelqu'un avait prié pour une réponse. Et puis, c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager. Et puis, c'est quand même des bons textes. Je trouve qu'il y avait toute l'épître de 2 Timothée, là. C'est vraiment intéressant parce que il y a vraiment des comportements qu'on reconnaît, comme dans 2 Timothée 4. Ça dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils supporteront plus ça. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Hein? Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Et puis moi, l'image que le Seigneur me donnait, c'était vraiment des églises où ce qu'on prêche plus la croix. Il n'y a plus de croix. Et puis on a du spectacle, on fait du spectacle. Et puis on donne aux gens ce qu'ils veulent entendre. Hein? On donne aux gens ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent. Donc, ça me parlait beaucoup à ce moment-là. Et puis, c'est pour la personne qui a prié pour ça, mais la réponse, je pense, dans l'épître de 2 Timothée, c'est assez clair. Je pense que ce qu'on voit les comportements que le Seigneur nous met à cœur, on reconnaît ça aujourd'hui dans nos institutions, malheureusement. Donc, il y a beaucoup de gens qui aiment ça aller se faire bercer à l'église, hein? Ils aiment ça aller se faire bercer. Se faire bercer, moi j'appelle ça aller entendre un showman. Tu sais, le gars, c'est un showman. Hein? Il a du charisme. Il a le don de raconter des affaires. C'est intéressant. Hein? Puis, c'est donc le fun de l'écouter. Mais c'est pas le fun d'aller se faire dire... d'aller se faire reprendre. Hein? On aime mieux aller se faire bercer qu'aller se faire reprendre. Et puis, les gens, vers la fin, ils vont aller mieux aller se faire bercer que... Ils vont plus être portés à aller se faire bercer qu'aller vers les gens qui enseignent la vérité. Et voilà. C'est ce que le Seigneur avait à nous dire. Et aujourd'hui, Le chemin est étroit. Oui. C'est... Puis il y a des souffrances, puis oui, il y a des souffrances, puis oui, le chemin est étroit, puis c'est pas vrai que c'est facile. Puis nous qui adorons d'un cœur pur, et puis qui avons fait de nos délices l'éternel, on sait de quoi il s'agit. On sait à quoi faut lui dire non, et on sait à quoi le Seigneur nous appelle. Et puis on veut pas se présenter, on veut pas rougir quand on va se présenter devant le Seigneur. C'est ce que je demande au Seigneur. Quand tu vas venir me chercher, parce que moi je dis tout le temps à tout le monde que je vais être enlevé, je vais vivre dans l'enlèvement, puis j'ai dit je veux être enlevé. Puis Bill, tu vas être avec nous autres, c'est sûr. Enlevé à la rencontre du Seigneur. Oui. Il revient chercher son Église. Ouais. Donc, il vient chercher vraiment. Puis aujourd'hui, le message, c'est drôle, hein? Mais je vais le partager parce que Marilyn n'était pas là. Fait que je vais le repartager pour les auditeurs aussi un petit peu parce que j'avais eu une bonne idée, là, cette semaine pour des partages, une nouvelle série de partages. Mais je dis pas qu'il est pas inspiré. Parce que je pense vraiment que Dieu m'a inspiré dans cette... Mais hier, j'avais rien. J'avais rien qui venait. Il était 10 heures. Puis j'avais rien qui venait, puis à un moment donné, là, tu sais, j'ai fait mon rituel que je fais d'habitude avec mon Seigneur. Puis là, j'ai dit, Seigneur, si tu veux pas m'en donner le message, j'en ferai pas. Parce que moi, je veux pas amener quelque chose qui est pas du Seigneur. T'sais. Je veux vraiment, quand j'amène un message ici, ça fait 2 ans, là, on en fait 2 fois par semaine. Là. Fait que ça peut pas être un homme qui invente tout ça. T'sais, je veux dire, c'est, pour moi, c'est important que ça soit inspiré de Dieu. Et puis quand je le sens pas inspiré de Dieu, j'aime mieux pas le faire. Fait que j'ai dit, Seigneur, j'en ferai pas. Et là, le Seigneur est venu me donner des conditions, mais tu t'en es donné une, ça. Mais j'avais eu un temps avec le Seigneur dans cette semaine sur un thème que je méditais. Je méditais des choses. Puis le Seigneur était venu. Il était venu m'enseigner sur, je trouvais ça. Ah, c'est pas pire, tu sais. Puis là, il me dit, c'est ça, comment ça? Tu veux que j'enseigne là-dessus, là? Je trouvais ça, j'ai dit, bon, si tu gardes, moi, c'est pas mon œuvre, c'est ton œuvre, hein, puis c'est ton message, c'est pas mes messages, c'est tes messages. Fait que si tu veux, j'enseigne, tu m'enseignes dessus. Ça me dérange pas, je suis mort, moi. Quand tu me cherches, je suis mort. Que le monde dise ce qu'ils voudront. Si je sais que si j'ai la conviction que c'est toi qui me l'as donné, il n'y a pas personne qui va venir me faire changer d'idée, mais on va le donner. Jusqu'à la fin. Mais ça a venu, c'est venu frotter mon humilité, tu sais. Mais tu veux que je parle de ça? Tu sais, il me semble que c'est un sujet, puis j'allais rougir aux autres, mais je mets en parole. Vous allez voir que vous allez dire, oh, de quoi qu'il va parler à soi. Mais c'est des sujets, d'un fois, qui sont, qu'on aborde d'une façon charnelle. Mais c'est, dans les Écritures, ça n'a pas une signification charnelle. Hein? C'est la façon qu'on a de voir les choses. Puis le Seigneur, il m'a enseigné là-dessus, je trouvais ça intéressant. J'avais jamais lu ça nulle part. J'avais jamais, reçu cet enseignement-là, peut-être que Claudia l'a déjà entendu ailleurs, ou parce qu'elle a plus d'expérience un petit peu au niveau des prédications. Mais moi, j'ai vraiment entendu ça, fait que j'étais béni, tu sais, donc que Dieu me donne cette explication-là que je vais vous donner aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le message s'appelle la circoncision. Il aurait dû s'appeler la circoncision du cœur. Mais on va voir que, premièrement, on va étudier ce rituel-là, et on sait que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Dieu, dans tout ce qu'il a fait, il n'y a jamais rien qui n'a pas une signification. Il n'y a jamais rien qui ne veut pas dire quelque chose. Hein? Et puis, on y a vraiment été. J'ai vraiment été d'une façon façon simple, là, mais d'une façon de pas. Je ne veux pas cacher rien. Je ne veux pas cacher ce que le Seigneur me mettait à cœur de faire. Il y a des choses qu'il a fallu qu'il insiste. Là. Je vous le dirai après, mais je l'aurais pas fait, s'il n'aurait pas insisté. Là. Mais c'est vraiment lui qui est venu me visiter. Puis ah, c'est ok, si tu veux, je vais. Fait qu'on va parler, de ça aujourd'hui. C'est quoi la signification de ça? Et puis c'est toujours une grande bénédiction pour moi d'être dans la présence de Dieu. De toute façon, peu importe le thème qu'il m'enseignera, ça me dérange pas. Fait que c'est toujours un temps incroyable que j'ai avec lui. Quand j'ai ce temps-là, et puis on sait que comme je vous disais tantôt, nous qui a fait de l'Éternel nos délices, parce que hein, je pense que c'est la particularité de tout le monde ici, on a fait de l'Éternel nos délices, hein? Et puis on a à cœur, ce qu'on a de plus important, c'est d'étudier sa parole. Et puis l'Éternel, il se révèle à ces gens-là. Les gens qui vraiment ont, ont le cœur de vouloir le chercher, de le connaître, ils aiment ça, ça les fait plaisir. Puis ils disent, oui, mais tu vas te révéler des choses que personne ne sait. Et puis, c'est un le point, c'est intéressant. Donc, on va voir qu'il y a toujours une signification plus grande, une signification qui va au-delà des mots. Hein? On peut lire dans les Écritures ce qu'une chose veut dire. Mais spirituellement, si le Saint-Esprit ne vient pas nous visiter, on n'ira pas plus loin que les mots. Mais le Seigneur, il veut nous faire aller plus loin que les mots. Il veut dire, voici pourquoi ça a été fait. Voici ce que ça voulait dire. Et voici ce que ça devrait nous enseigner. Fait qu'aujourd'hui, on va se servir de ça pour grandir spirituellement. Puis mieux connaître notre Seigneur. Et puis, on va revoir cette alliance-là. Genèse 17, chapitre 17, versets 7 à 13, que je vais vous lire. 7 à 14, que je vais vous lire. J'ai même fait des dessins. Hein? Vous allez rougir, je vous le dis, vous allez rougir. Peut-être pas. Mais ça doit être vu d'une façon spirituelle. Il y a une signification à ça. C'est ça qu'on va étudier. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu. » Et celui de ta prospérité après toi, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites. Comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi selon leur génération, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta prospérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Même si c'est des gens qui ont acheté pour devenir esclaves, il fallait que tout mâle qui rentrait soit circoncis à l'âge de 8 jours. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair. Une alliance perpétuelle. Verset 14, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. C'est assez clair. Tu peux pas être circoncis, tu peux pas être de mon peuple. Il aura violé mon alliance. On voit ici la rigueur de l'alliance de l'Éternel, comment c'était important. Et puis, qu'il avait demandé à ce que tous les mâles soient circoncis. Il n'y avait pas de passe-droit possible. Les mâles incirconcis font face à l'extermination du milieu du peuple, du Seigneur, rien de moins. Donc, selon cette alliance, si j'ai pas la circoncision, je ne peux pas faire partie du peuple de Dieu. Mais ça a une signification pour nous aujourd'hui. Hein? Maintenant, on va voir, on n'aura pas peur des mots parce qu'on sait, faut comprendre ce qu'on est en train de dire. J'allais voir les significations dans le dictionnaire que j'ai coupé un petit peu. Mais en gros, ça nous dit, circoncision, c'est excision totale ou partielle du prépuce. Le prépuce, c'est repli cutané couvrant le gland de la berge. Est-ce qu'on comprend c'est quoi la circoncision? Quand je vous montre ça, là. Le prépuce, c'est ce qui entoure ici. Par-dessus. Et puis, c'est ce qui recouvre le gland. Puis la circoncision, ça consiste à enlever une partie ou le prépuce au complet. Est-ce qu'il y a du monde de rouge? Ah, bien rouge un peu. Donc, il y a une signification évidente à ce rituel ordonné par Dieu, applicable à nos vies. Plusieurs ont pris cette alliance au pied de la lettre, comme un tatouage. Ils ont dit, c'est un sceau, c'est un signe d'alliance avec Dieu. C'est sûr que je peux évaluer ça d'une façon simpliste, en disant ça, que c'est comme si c'était une façon charnelle là, d'expliquer ça. On va voir plus tard qu'il y a une autre signification beaucoup plus grande que ça, puis qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par rapport à cette circoncision qui était une préfiguration d'une autre circoncision. Une autre à venir, hein? Ça, c'était l'ombre des choses à venir, ça. Souvenez, dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, premièrement, on va voir quelques pépites pour confirmer que notre Dieu est grand. Notre Dieu est souverain. Et Dieu a demandé que la circoncision se fasse le huitième jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi? Qui a demandé ça? Personne ne sait pourquoi, hein? On va citer les propos du docteur Intel que je nommerai pas, là. Je l'ai mis en référence pour vous lire le nom du livre, la page. Le système de coagulation dépend d'un certain nombre de protéines créées par le foie. C'est appelé les facteurs de coagulation. Ces facteurs sont désignés par les chiffres romains 1 à 13 et s'activent les uns les autres le long d'une chaîne par le biais d'enzymes jusqu'à l'obtention du facteur fixe appelé pévarine. À cet âge, aucun acte chirurgical ne peut être pratiqué sur cet organe. Il parle de cette circoncision. Une opération serait susceptible de provoquer un saignement incontrôlable et de mettre la vie du nourrisson en danger. Physiologiquement, 8 jours sont nécessaires pour que le fonctionnement du foie soit rétabli. Ce n'est qu'au bout de 8 jours que le niveau des facteurs de coagulation et sa capacité de mettre fin à un saignement devient satisfaisant. Ça nous dit qu'on ne sait pas toujours pourquoi Dieu nous demande des affaires. Hein? Mais lui est souverain. Lui, il sait qu'il ne faut pas que ça se fasse avant 8 jours. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous connaît. Donc, ça nous enseigne que des fois, faut, même si on comprend pas ce que Dieu nous demande, si on comprend pas ce qui est écrit dans la parole, on doit ajouter foi à la parole comme elle est. Et puis faire confiance à Dieu pour sa parole. Donc, on sait que la circoncision a quelque chose à nous apprendre aujourd'hui en tant que chrétien. On va voir ensemble quelques versets pour nous mettre sur la piste, sur la pépite, sur la révélation que moi j'ai eue, mais peut-être, en tout cas, moi j'ai eu cette révélation-là, puis mon travail c'est de vous la transmettre. Et puis, on a vu ensemble que cette circoncision, c'était une préfiguration d'une autre qui était à venir. Donc, la circoncision, c'était un dépouillement. Ce que je vous ai montré, c'était un dépouillement d'un surplus de chair. Vous avez tout vu ça. Donc, voyons ce que Paul dit quand il s'adresse aux Juifs. Romains 2, versets 24 à 29. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne condamnera-t-il pas, toi, qui la transgresse, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Donc, l'alliance que Dieu nous parle, c'est bien celle du cœur. Cette alliance-là, ça nous parle bien de notre cœur. C'est la circoncision du cœur. Ce juif est celui qui s'est dépouillé de sa chair. Hein? On a vu que la circoncision, c'était un dépouillement d'un bout de chair qui était trop. Ben, le juif, selon Paul, c'est celui qui va s'être dépouillé le cœur de sa chair. Et puis, je trouvais ça intéressant. Et puis, c'est celui qui adore, il va dépouiller sa chair pour adorer d'un cœur pur, qu'il n'y a rien entre son cœur et son Seigneur. Donc, on ne peut pas faire partie du peuple de Dieu, prétendre faire partie du peuple de Dieu, quand on a encore notre petit morceau de chair par-dessus le cœur. Hein? On voit que ça fait ce petit morceau-là, cette petite enveloppe de chair-là autour du cœur. On voit ce que Paul dit plus tard, mais là, on va voir Colossiens 2:11. « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais la circoncision de Christ consiste en le dépouillement du corps de la chair. » Il s'est passé quelque chose quand on a reçu le Seigneur. Mais il y a quelque chose que c'est nous autres qu'il faut qu'il fasse. Que le Seigneur ne fera pas lui-même. crois pas, il est capable de le faire, mais à cause de mon libre arbitre, il va attendre que je me dépouille. Voilà. Et puis dans Colossiens, verset 17, 2:17, ça disait c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Paul nous dit que nous devons nous dépouiller de nos œuvres mortes de la chair qui entourent notre cœur, parce qu'elles font interférence entre Dieu et notre cœur, justement. Et puis, qu'est-ce que dit le Seigneur dans Proverbe 23? Mon fils, donne-moi ton cœur. Ouais, mon fils, donne-moi ton cœur. Et puis, on voit que Paul, dans Galates 5:19, nous parle des œuvres de la chair. Hein? Galates 5:19 à 21, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est l'impudicité. » On n'ira pas dans chacun des détails, là. Mais l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui les commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. S'il y a des gens qui se disent, on en connaît, des gens qui se disent sauvés, mais qui vivent là-dedans. Parce qu'ils ne pensent pas que ces gens-là vont hériter du royaume de Dieu. La parole, c'est ce qu'elle dit. Lorsque mon cœur est enveloppé de cette chair-là, mes choix sont toujours orientés vers moi-même. Mes choix sont pour moi. Ils sont pour mon égocentrisme. Ce petit morceau de chair-là, là, qui est autour de mon cœur, fait que tout est centré sur moi-même. Toutes mes décisions sont centrées sur moi-même. Je suis pas capable de servir dans l'Église. Je suis pas capable de servir les autres. Je suis pas capable de donner pour les autres. C'est toujours, je prends. Quand je fais quelque chose, je calcule. Je vais le faire à condition que. Tu sais, ça va être, ça c'est une particularité des gens qui sont prisonniers de leur égocentrisme au milieu de cette enveloppe de chair-là. Il y a une opération, hein, il faut qu'il soit fait pour la circoncision, hein. Il y a un morceau qui est enlevé. Il y a un dépouillement qui est fait. Ça peut être douloureux. Ça dépend de quelle façon on est prêt à... Savez-vous combien c'est douloureux? Savez-vous comment c'est douloureux? C'est à quel point j'ai pas compris encore que j'avais une nature de chair. Tant que j'aurai pas compris que ce que la nature que j'ai reçue est déchue, on sait la chair, qu'est-ce qu'on a reçu. C'est la dépravation totale. Dans Isaïe 1:5, ça dit, l'homme, il est malade, la tête aux pieds, avec la chair qu'il a reçue. Mais c'est cette chair-là qu'il faut qu'il soit dépouillé pour que la vie de Dieu soit manifestée. Mort à soi-même. Mort à soi-même. Hein? Donc, ce peu douloureux, notre chair doit être enlevée d'autour de notre cœur afin qu'il n'y ait rien entre notre cœur et notre Seigneur. Pour adorer d'un cœur pur, qui alors devient le sien. Hein? Ça va devenir manifestation de son cœur, parce que là, il va avoir mon cœur. Il n'y aura plus une enveloppe autour de mon cœur qui l'empêche d'avoir mon cœur. Fait que mon cœur va être pour le Seigneur. Ça sera plus moi. L'enveloppe du moi va avoir disparu, elle va être circoncise. On va voir où elle a été mise tantôt. Paul nous le dit, hein, où elle a été mise, cette enveloppe-là. On va voir ça tout à l'heure. L'opération, comme je disais tantôt, ça consiste à constater et accepter que j'ai une nature déchue, que j'ai une nature qui est déchue, puis que je peux rien produire de bon avec. Et puis ça, ben souvent pour des personnes, ça fait mal. Il y a des personnes qui sont pas prêtes à accepter ça, qui ont dit, ben hey, moi je suis une bonne personne, tu sais. Puis ils sont toujours sous leurs œuvres. Ben ça fait plus mal. Ces opérations-là, là, l'opération pour la circoncision du cœur va faire un peu plus mal que les gens qui sont morts. Les gens qui sont morts à eux-mêmes, on dit. Et puis dans Romains, on va voir à juste avant, notre nature charnelle est déchue, et puis on a vu qu'elle a été crucifiée à la croix. On lit ça ensemble. Romains 8, versets 5 à 14. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses légères. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est ennemi de Dieu. La chair est ennemie de Dieu. Toujours, toujours. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La chair, elle peut même pas se soumettre à Dieu. Elle est rebelle. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Puis dans le verset 13, 14, ça dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, on a la pépite, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, si l'esprit va prédominer dans mes choix, on vit. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ensuite, on voit dans le verset 13, 14, il y a beaucoup de versets, là. J'aime mieux ça. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayant pas soin de la chair n'ayant pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il dit, quand tu vas avoir enlevé cette enveloppe-là de peau, de chair qu'il y a sur ton cœur, il dit, revêt Jésus-Christ par-dessus. Et puis là, tu vas devenir un dispensateur. Ouais, il y a des dessins. Galates 5:16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Hein, on a les choses qu'il faut pas faire, mais là, on a les choses qu'il faut faire. Paul nous dit, ben, c'est quoi, tu marches selon l'esprit? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 5:24, ça dit, on achève. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Donc, l'opération que moi j'ai à faire dans cette circoncision-là, c'est de crucifier cette chair-là en ne lui donnant pas mon premier choix dans les situations. Je vais toujours favoriser les choix selon ce que la parole de Dieu m'enseigne. Et puis là, la chair va mourir. Et puis là, c'est la vie de Dieu qui va vivre en moi. Galates 6:8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit de la vie éternelle. 1 Pierre 4:1-2, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Il a tout réglé ça, lui. Il a tout réglé ça. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Parce qu'on va sortir de ce corps de chair-là, de cette enveloppe-là. Et puis, j'ai trouvé un verset intéressant de Ézéchiel 18:31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et le Seigneur, il finit avec ça. Je veux juste vous laisser avec un dessin. Ça, c'est ce que le Seigneur qui m'a demandé de... Quand la circoncision a eu lieu, si je retourne à l'envers, ça fait quoi? Ah! C'est intéressant. Mais je trouve ça... Je trouve que l'enseignement, tu sais, que les choses de Dieu, comment est-ce que ça peut être riche. Des fois, on comprend pas ce que Dieu voulait faire par telle affaire. Puis quand on lui demande, on voit comment c'est grand ce qu'il avait prévu, comment est-ce que c'est profond. Fait que c'était l'enseignement aujourd'hui. Ça prend l'humilité. C'est correct. Comme je vous dis, comment je dis ça, mon œuvre, c'est son œuvre. Fait que, on va juste terminer en priant, après ça on va faire un appel, et puis on va terminer sur ça, en pensant qu'il y a une enveloppe autour de notre cœur. Cette enveloppe-là, elle doit être enlevée. Parce que cette enveloppe-là me fait faire de mauvais choix. Aujourd'hui, le fond du ménage, c'est ça. C'est que ça empêche, cette enveloppe, elle doit être enlevée. Elle doit absolument, la chair ne doit plus diriger mes choix. Les convoitises charnelles humaines ne doivent plus influencer mes décisions. Ce qui doit influencer mes décisions, c'est la parole de Dieu par le Saint-Esprit pour les situations. Puis ça, c'est, je pense, qui résumerait le message aujourd'hui. Et puis souvent, on va prier, on va mettre ça en prière. Père, donne-nous par ta grâce de nous dépouiller de cette enveloppe charnelle qui entoure notre cœur, de marcher selon l'Esprit, de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, de faire mourir les actions du corps et de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon ta volonté, Seigneur, pour nous revêtir de Jésus-Christ pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans notre corps de chair jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, Seigneur. Et puis, si tu as entendu ce message aujourd'hui, que tu aimerais avoir cette relation avec le Seigneur, la Bible nous parle, nous enseigne qu'il y a une condamnation, que l'homme dans son état actuel, l'humanité dans son état actuel est séparée de Dieu. Il y a une séparation qui a été faite en Romains 3, 23, dans Romains 6. On voit que l'homme, il n'y a rien que l'homme peut faire pour que les portes du ciel soient ouvertes lorsqu'il va mourir. Par contre, on voit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et puis dans Jean 1, 12, ça dit à celui qui l'a cru, qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc, on voit que, premièrement, tu dois comprendre qu'il y a accepté et comprendre, admettre, reconnaître que tu as besoin d'un sauveur. La Bible statue est claire, elle dit que tu ne peux pas te sauver par toi-même. Même les meilleures œuvres que tu pourras faire toute ta vie ne t'ouvriront pas les portes du ciel. C'est la première étape. Deuxième étape, la Bible dit qu'il y a eu un paiement de fait pour toi. Quelqu'un est venu faire un paiement. Et que tu n'as qu'à recevoir, te repentir d'avoir ta vie, d'avoir mené ta vie sans Dieu, venir jusqu'à aujourd'hui, recevoir ce cadeau gratuit de celui qui a payé pour toi, de l'accepter comme ton Seigneur, comme ton Sauveur qui est Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'aujourd'hui même, tu deviendras un enfant de Dieu et que tu passeras l'éternité dans la présence de Dieu. On a vu encore aujourd'hui que Dieu regarde à ton cœur. Si tu prends cette décision aujourd'hui dans ton cœur, si aujourd'hui tu te repens et tu acceptes Jésus-Christ pour qu'il vienne vivre dans ton cœur, ben, tu recevras le cadeau de la vie éternelle. Et si tu veux, on va prier avec toi. Et puis après, on va prier pour toi. Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir vécu ma vie sans toi. J'ai entendu que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je le crois et je l'accepte. Seigneur, viens dans mon cœur. Et sauve-moi. Seigneur Jésus, je veux prier pour les gens qui ont fait cette prière à la maison, que tu touches leur cœur maintenant puissamment, Seigneur, de ton amour, qu'ils ne puissent jamais douter qu'ils ont la vie éternelle, Seigneur. Envoie-leur des ouvriers, qu'ils deviennent tes disciples, qu'ils deviennent le sel et la lumière pour ta gloire, Seigneur Jésus, compris. Amen. Merci beaucoup.